Catherine le matin. 106.9 Mauricie.
Que la Mauricie se lève.
Et pour l'introduire en chiffres, à l'échelle du Québec en 2020, 369 000 personnes qui reçoivent des services à domicile du réseau de la santé, et ça a augmenté de 25 % depuis 15 ans. Mais puis on va faire la nuance, c'est pas seulement des personnes âgées, là. Des soins à domicile, ça touche plusieurs tranches d'âge. Bonjour, Katia.
Bonjour.
Bonjour, parce que je trouve ça important, puis c'est ce que vous mentionnez là, dans l'article. On a tendance à passer soins à domicile, c'est juste pour les gens âgés, ce qui n'est pas le cas du tout, là.
Ah non, pas du tout. Là, il y a beaucoup de clientèles qui reçoivent des soins à domicile et dont, évidemment, une des plus importantes, c'est les soins post-opératoires. Hein. Vous vous rappelez du virage ambulatoire là, de Jean Rochon dans les années 90 où on devait passer moins de temps à l'hôpital, puis c'est tout à fait normal. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des soins pendant quelques semaines, quelques mois, des soins, donc changer des pansements, ce genre de choses-là. Il y a aussi une clientèle qui reçoit des soins à long terme qui ne sont pas nécessairement des aînés, donc des déficients intellectuels, des gens qui ont un handicap physique, une clientèle autiste. Donc, tous ces gens-là sont inclus dans ce 369 000 personnes-là dont vous parlez. Mm-hmm. Alors, les aînés, ce que les experts nous disent, là, le ministère des aînés nous dit non, il faut faire attention, c'est transversal, les soins à domicile, il y a des aînés dans les clientèles que vous mentionnez. C'est vrai, mais disons qu'ils se retrouvent en grande majorité dans un programme précis qui s'appelle le soutien à l'autonomie des personnes âgées. Ce programme-là, il est double. Il finance l'hébergement, donc les CHSLD, et il finance les gens qui reçoivent des soins à domicile chez eux. Et ce qu'on peut regarder, ce qu'on constate quand on regarde le nombre d'usagers de ce programme-là, c'est qu'il n'a pas beaucoup augmenté, disons, au fil des ans. On a atteint un sommet de clientèle en 2012. Qu'on n'a jamais dépassé depuis. Donc, okay. C'est pas normal pour une province où le nombre de gens de plus de 65 ans augmente constamment. Hein. Maintenant, on est à 16 % puis on va être à 26 % dans 10 ans. C'est-à-dire qu'une personne sur quatre va avoir plus de 65 ans. Puis souvent, on a le réflexe de dire, 65 ans, c'est pas vieux. C'est vrai. Les gens sont de plus en plus en santé, mais selon l'Institut de la statistique, il faut quand même réaliser qu'il y a un quart des personnes de plus de 65 ans qui ont une limitation légère ou modérée. Donc, ils ont un problème de santé qui est à long terme et qui, possiblement, pour lequel ils vont avoir besoin de soins à domicile.
Katia, quand on regarde là, ce que le gouvernement caquiste a fait depuis qu'ils sont là, en termes d'investissement, c'est quand même 380 millions de plus dans les soins à domicile qu'ils ont investis. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Le problème, il est où exactement dans ce que vous nous présentez ce matin?
Mais c'est une bonne question, Catherine. J'ai de la misère à y répondre moi-même, parce que c'est clair que les sommes augmentent au fil des ans. Regardons, là, tu sais, depuis 10 ans, là, ce programme dont je vous parle, le programme SAPA, le volet soins à domicile, on est passé grosso modo de un petit peu plus que 500 millions à quasiment 1 milliard $. Là. Donc, on c'est clair que depuis 10 ans, il y a eu des investissements, bon, qui ont été un petit peu moins importants au fil des ans et qui le sont plus au fil des dernières années, c'est vrai. Je pense qu'il y a eu de l'argent investi là-dedans. Bon, une des choses qui explique le fait qu'il n'y a pas tellement plus de clients, mais plus d'argent, c'est que la clientèle est plus lourde. Hein? Donc, le nombre d'interventions et le nombre d'heures d'intervention auprès de la clientèle, lui, ça a augmenté. Hein? Donc, ça veut dire que les gens qui sont à la maison, il n'y en a pas nécessairement plus qui reçoivent des services, mais ils sont plus lourdement atteints et le ministère de la Santé dit qu'on les a mieux évalués au fil des ans. Donc, on a répondu à davantage de leurs besoins. Donc, on peut présumer que les gens qui sont déjà dans ce programme-là, ben, ils ont probablement des services à la hauteur de ce qu'ils ont besoin. Le problème, c'est que il va en avoir, il y en a beaucoup plus qui en ont pas du tout parce qu'ils en demandent pas, parce qu'ils ont des aidants naturels ou parce qu'il n'y a pas de personnel aussi. Là, c'est sûr qu'il y a une pénurie de personnel dans ce secteur-là aussi, évidemment.
Katia, dans ceux et celles à qui vous avez parlé là, dans le dossier que vous nous présentez, il y a entre autres Guillaume Hébert de l'Institut de recherche et d'information socio-économique qui présente, en fait, il utilise les profils de soins des usagers partout au Québec qui établissent le nombre d'heures de services requis. Il a calculé que le Québec, en donnant 25 millions d'heures de services, ne répondait qu'à 7 % des 300 millions d'heures dont les usagers avaient besoin. Je sais que vous avez tenté de faire réagir même la ministre Marguerite Blais. Je pense qu'elle a, elle a refusé l'invitation. Mais du côté du ministère de la Santé, c'est quoi? On challenge un peu ces chiffres-là? On dit que c'est pas le cas?
Bien, on dit que c'est une clientèle, dans le fond, qui est théorique. Hein? Donc, vous, par exemple, si vous faites partie de ces gens qui ont une limitation modérée, ben peut-être avez-vous l'aide de votre fille, par exemple, qui vient vous aider à faire votre épicerie ou à faire votre ménage et que, dans le fond, vous demandez pas de service au réseau. C'est vrai, il y a une bonne partie de ces heures de service-là ou de ces gens-là qui ne demandent rien. Mais il faut dire que c'est pas tellement attirant de demander quelque chose, hein, parce que les gens à qui j'ai parlé qui en ont des services à domicile pour un ou pour eux-mêmes ou pour un proche, c'est la croix et la bannière que d'avoir des services. C'est très compliqué. C'est un processus qui est très technocratique où, à la fin, on arrive avec, il y a des entreprises d'économie sociale, il y a des entreprises privées, il y a le CLSC. Donc, c'est un peu un bordel qui est très difficile de gérer. Fait que peut-être qu'une partie de ces gens-là ne demandent pas de services parce que ils se disent, ouais, ben non, ça va être trop compliqué, là, puis ça me tente pas de m'embarquer dans tout ce processus-là. Mais effectivement, le ministère dit, dans le fond, que les chiffres de M. Hébert sont une clientèle théorique qui, dans le fond, ne reflète pas là, les demandes qui sont faites au ministère.
Katia, en terminant, je veux que vous nous présentiez un petit peu la rencontre que vous avez faite avec Maureen Brennan. C'est une dame qui a 72 ans. Elle vit avec la sclérose en plaques depuis 10 ans. Et lorsqu'on parle des effets de la pandémie, elle, ça a eu des effets concrets. Expliquez-nous un peu ce qu'elle avait comme service et ce qu'elle n'a pas eu finalement durant les mois de confinement.
Bien, comme je vous disais, donc, dans le fond, il y a deux voies pour les soins à domicile. Il y a la voie des services de santé, donc qui assurent les soins de nature médicaux, là, les soins infirmiers, les préposés, ce genre de choses-là. Mais il y a aussi les gens qui ont besoin de services d'aide à la vie domestique. Hein, donc, faire la cuisine, faire le ménage. Bon, ça, c'est assuré par des entreprises d'économie sociale. Pendant la pandémie, le gouvernement a décrété que les services que ces entreprises-là donnaient, quand ils étaient de nature plus médicale, ils étaient maintenus. C'était considéré comme des services essentiels. Mais tous les services d'aide à la vie domestique, eux, ils ont été jugés non essentiels. Donc, ces gens-là, les entreprises d'économie sociale ont été obligées de mettre à pied à peu près la moitié de leur personnel. C'est des milliers de personnes. C'est à peu près 4000 personnes qui, du jour au lendemain, ont perdu leur emploi et des milliers de clients qui, comme Mme Brennan, se sont retrouvés, elle, à faire son ménage et faire changer son lit aux deux semaines par une dame qui vient 3-4 heures chez elle. Elle n'avait plus cette dame-là. Donc, pendant 4 mois, elle a été, disons, dans un appartement qui devenait de plus en plus insalubre. Elle a été aidée à quelques reprises là, par sa famille, mais disons que ça faisait pas du tout là, l'affaire. Là. Et les entreprises d'économie sociale nous disent que il y a des milliers de personnes comme ça qui ont été prises des fois parce qu'ils n'étaient pas capables de se faire à manger, ils n'étaient pas capables de faire leur ménage parce qu'on avait jugé que les services qu'ils recevaient étaient non essentiels. Donc, ça a été un gros problème pendant la pandémie, la première vague. Ouais. La deuxième vague, le gouvernement a changé d'avis là, et on considère désormais ces services-là comme essentiels.
OK. Katia, juste une dernière question, parce qu'à la fin du reportage, vous nous comparez un peu. Comment se compare-t-on? Si on voit même sur la planète, là, on est-tu dans les pires en termes de soins de longue durée pour les aînés? Est-ce qu'on fait pire que bien des pays?
Ben, on n'est pas dans les pires, certainement. Tu sais, si on se compare aux États-Unis, là, les soins de longue durée, là, ça inclut tout. Hein. Ça inclut l'hébergement, les soins à domicile, tout. Donc, c'est sûr que les pays comme les États-Unis, c'est 0,5% du PIB, ce qui est vraiment une catastrophe. La moyenne des pays de l'OCDE, là, c'est 1,7% du PIB investi dans ces soins de longue durée. Au Canada, pour Québec, on est à 1,3. Donc, on est clairement derrière et on est clairement derrière, évidemment, les pays comme le Danemark qui, eux, font une vraie job impeccable ou, d'ailleurs, dans leurs investissements, eux, c'est exactement l'inverse des noms. C'est 75% des sommes sont investies en soins à domicile et 25% seulement en hébergement. Pourquoi? Parce qu'ils donnent tellement des bons soins à domicile que les gens restent longtemps chez eux et ils ont moins besoin leur état se dégrade moins rapidement et donc ils ont moins besoin d'aller en CHSLD. Vous voyez, c'est ça qu'il faudrait faire ici, c'est ce que quelqu'un comme le docteur Hébert dit depuis 30 ans. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça le modèle. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens veulent, Catherine. Ils veulent rester chez eux. Donc, et ce virage-là, ben, il n'a toujours pas été fait.
Merci, Katia. C'est toujours intéressant.
Merci à vous.
Merci. Au revoir. Katia Gagnon, journaliste à La Presse. On lui parle quand même de façon occasionnelle. Alors, c'est un dossier à lire ce matin. Peut-être que ça vous touche de près, là.